reportage.
RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, grand reportage vous parle d'une souffrance qui ne se voit pas, mais elle est bien réelle, la souffrance psychique des migrants. Les exilés seraient deux fois plus touchés par ces blessures invisibles que le reste de la population. Des blessures dues à leur histoire personnelle, dues à leur parcours, souvent périlleux, difficile et aggravé par les conditions de vie une fois arrivé en France. Pour les associations d'aide aux migrants, la santé mentale est un enjeu de santé publique qui n'est pas assez pris en compte. Souffrance psychique des migrants, la grande oubliée, c'est un reportage signé Lise Verbeek.
Salam alaikum.
Alaykoum salam.
Alaykoum salam.
Ça va ?
Alors, ce monsieur est soudanais.
Aïe, soudanais, aïe.
Voilà, il m'a déjà donné son nom, il est arrivé depuis 2015 en France, il est né en 86, et je voudrais savoir ce qu'il a.
Sous le barnum installé par Médecins du Monde, coincé entre un boulevard et un parc au nord de Paris, Hassan vient consulter Rémi, le médecin, avec l'aide d'un traducteur.
J'avais la semi, la couverture maladie universelle. C'est ce qui m'a permis de faire une opération, une intervention chirurgicale par rapport à l'hémorroïde.
Hassan dort sous une tente, porte d'Aubervilliers, avec 8 autres personnes.
Lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas tous ces cheveux blancs, je n'avais pas la calvitie. Tout ça, c'est les conséquences des problèmes que nous subissons. Et lorsqu'on est dans la rue, donc on est confronté à toutes sortes de problèmes. On peut être agressé à tout moment. Donc on est tout le temps sur la défensive. Je ne vois aucun avenir. Comme le dit un dicton soudanais, à chaque fois qu'on essaye de trouver une solution pour sortir du trou, on s'enfonce davantage. Et franchement, je ne vois aucun avenir, ni ici. Et même si je décide de retourner, je risque d'avoir des problèmes au Soudan. Et pourquoi pas d'être soumis à l'esclavage.
Est-ce que la souffrance psychique, vous la percevez tout de suite quand un patient vient vous voir ?
Non, pas tout de suite. Chez les femmes, souvent non. Ça va s'exprimer par des pathologies liées au stress. Et c'est quand on a pris le temps de les écouter, de leur parler, qu'elles vont finir par lâcher un peu la souffrance qu'elles ont et les horreurs qu'elles ont pu vivre. Chez les hommes aussi, il y a beaucoup de tendance à cacher ce par quoi ils sont passés.
Et ça peut expliquer des symptômes physiques ?
Absolument, absolument, absolument. Ça va s'exprimer par des pathologies liées au stress. Il y a énormément de pathologies digestives, hein, les gens qui ont mal à l'estomac, qui ont mal au ventre, les gens qui n'arrivent plus à bouger, les gens qui tremblent, l'hypertension. Tout ça, c'est des pathologies qui sont très souvent chez ces populations-là liées au stress.
C'est antipsychotique ?
Ouais.
Vous pouvez aller éventuellement à la consultation de psychiatrie qu'on a à Médecins du Monde.
La clinique mobile de Médecins du Monde permet entre autres de détecter ces souffrances psychiques et d'orienter les migrants vers leur centre de soins parisien situé dans le 12e arrondissement.
Ici, vous expliquez comment faire ce que je vous dis.
Moi, je ne peux pas encore expliquer parce que mon français va finir.
Non, mais très bien votre français. Essayez de s'occuper de vous, là. Pas
je ne veux pas rendez-vous.
Pourquoi vous ne voulez pas de rendez-vous ?
Moi, je veux juste un papier. Et si ça marche ou si ça marche pas, je vais envoyer pour Ophi, il va dire quoi ?
Je pense qu'il est schizophrène, voilà.
Qu'est-ce qu'il
fait ? Plein d'arguments, sa jeunesse, ce qu'il raconte, son comportement, enfin tout ça.
Les gens, je veux traduire pour les avants, mais gratuit. Merci beaucoup.
Au revoir.
Parce que c'est le bureau que je vais vous le montrer quand même, mais c'est le bureau qu'on utilise. Les consultations 6 du matin.
Dans ce centre, depuis plus d'un an, un après-midi par semaine, 5 psychologues reçoivent les exilés en groupe ou individuellement.
Ils sont très sidérés, ils peuvent venir très silencieux et très méfiants.
Christine Daoudian est psychothérapeute chez Médecins du Monde.
Il y a une caractéristique de la clinique traumatique, c'est des choses un peu pseudo-paranoïa. paranoïaques, avec des impressions hallucinatoires ou l'impression qu'ils sont suivis dans la rue ou qu'ils peuvent être persécutés, bien qu'ils soient assez critiques, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de délirer, ils ont même peur d'être fous parce qu'ils sont quand même habités de ça. Ils peuvent venir très méfiants et on va être souvent la première personne, au fond, à réhumaniser là où ils n'ont fait que des rencontres. Un patient qui me disait « je ne pensais pas qu'il existait encore des êtres humains qui soient humains ». C'est-à-dire qu'on sera peut-être les premières personnes à réhumaniser des personnes qui auront été traitées vraiment comme des objets, hein, que ce soit dans la torture ou dans les violences sur le parcours. Et tout le travail, ça va être de, finalement de leur redonner confiance en eux, parce que déjà, il y a des personnes qui n'iront même pas à l'OFPRA ou demander quelque chose qu'ils pourraient légitimement demander comme demandeurs d'asile, parce qu'ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes ou n'y croient plus, c'est-à-dire ils pensent qu'ils en valent même plus la peine. Donc notre premier défi, c'est de leur dire qu'on pense pour d'eux qu'ils vont la peine. Donc peut-être de restaurer une confiance, une envie de se battre pour eux-mêmes. Ensuite, d'avoir confiance en l'OFPRA, c'est-à-dire que ce n'est pas un organe persécutif. Certains patients peuvent le penser, hein, donc on a tout ce travail-là. Et puis j'ai envie de dire de remettre des enveloppes psychiques, de rassembler des personnes qui peuvent être en morceaux. Souvent, ils ont des trous de mémoire importants, ils confondent. Ils sont au jour de, quand on les voit, ils sont sûrement peut-être pas capables de faire le récit écrit que va demander l'OFPRA. Et notre travail, c'est peut-être permettre que ce soit possible.
Est-ce que vous avez en tête une ou deux histoires de patients qui vous ont particulièrement marqué?
Beaucoup d'histoires. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'écouter les militants, ceux qui se sont retrouvés obligés de partir parce qu'ils appartenaient à des partis démocratiques, qui ont été persécutés, et qui nous disent finalement, vous ne pouvez pas comprendre. Et souvent, je leur fais référence que nous avons eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, des résistants qui ont eu les mêmes choix qu'eux. J'ai eu dernièrement un patient qui m'a dit, mais je sais quelque chose, si je le dis, c'est très important pour mon parti d'opposition, mais si je le dis, je peux mettre ma famille en danger. Et au fond, ce patient avait envie de voir si je pouvais entendre quelque chose. Et à ce moment-là, je n'hésite pas à raconter des choses de notre propre histoire où, effectivement, des résistants ont pu se poser la même question. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui, moi, m'émeut beaucoup, c'est que parfois, les patients n'ont que ça, narcissiquement, pour continuer à tenir debout. C'est la fierté d'avoir été ces militants-là, d'avoir pris des risques. Et je pense qu'il faut préserver ça, sinon on risque un effondrement total. Et au fond, ceux qui peuvent s'adosser un peu là-dessus arrivent à garder, je trouve, la tête un petit peu hors de l'eau parce qu'il y a quelque chose peut-être de ça, d'avoir été ce combattant courageux et je pense que c'est très important et de partager avec eux notre histoire et la leur.
Dans la rue, bien souvent, les troubles psychiques s'aggravent, mais la première urgence est d'abord de survivre. Alors pour certains exilés, accueillis dans des familles, il est parfois plus facile de retrouver un équilibre et de se soigner. Yannick, congolais de 19 ans, vit chez Céline, qui a monté un collectif citoyen d'aide aux migrants en Picardie. Yannick a accepté de se livrer sur son histoire.
Après la mort de mes parents en 2014, la famille de mon père, ils nous ont chassés. J'étais le grand frère, avec mon petit frère et ma petite sœur, j'étais obligé de les protéger. Je les avais pris, on a quitté là-bas et on était parti habiter dans le grand marché de la ville de Kinshasa. Il y a eu plein de trucs, j'ai eu des relations avec d'autres gens et après ça n'a pas bien marché. Pendant qu'on était au marché, ma petite sœur est morte, elle était tellement malade, on ne dormait pas dans de bonnes conditions. Elle avait attrapé la malaria et pour l'amener à l'hôpital, pour acheter des médicaments, il fallait vraiment avoir l'argent, mais nous on était à la rue, on n'avait rien. Déjà, les enfants de la rue, on est mal considérés par les gens. Et quand elle est morte, j'étais avec mon petit frère. Et pour protéger mon petit frère, j'étais obligé d'accepter d'autres propositions, d'autres choses que les gens m'avaient demandées. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. Il y a eu des problèmes et j'étais arrêté.
Yannick a réussi à s'enfuir et à quitter son pays. Un long et difficile voyage le mène en France. Aujourd'hui, il attend toujours une réponse pour sa demande d'asile.
Après avoir parlé de tout ce que j'ai vécu, et à un moment, j'arrive plus à me contrôler, et j'arrive plus à dormir, et j'arrive plus vraiment à me concentrer. Même cette année, après avoir passé à l'OFRA, ils m'ont posé des questions, et je parlais de tout ce que j'ai vécu, de ma famille, mon petit frère, ma petite sœur. À chaque fois que je parle de ça, j'arrive plus vraiment à me concentrer. Malgré que je sais que c'est mon histoire, je ne peux pas oublier, mais avec le temps, ça va aller, mais pour l'instant, je ne suis pas bien quand je parle de ça. Je pensais surtout à mon frère et ma petite sœur, parce que depuis que je suis venu en France, mon petit frère ne sait pas où je suis. Je ne sais pas. S'il est toujours en vue, je ne sais pas. Et en plus, je pense aussi à ma petite sœur. À chaque fois quand je dors, je la vois toujours, elle me dit tu m'as laissé, du coup ça me trouble. Et en tant que grand frère, j'étais obligé de la protéger. Je suis pas vraiment bien, je m'aimerais vraiment être calme et puis penser à d'autres choses.
Du coup, combien de temps toi à peu près pour que ça se cuit ?
Céline, sa marraine comme Yannick l'appelle, l'a déjà emmenée plusieurs fois chez le psychologue. Une étape nécessaire pour préparer les entretiens pour les demandes d'asile.
Ce sont des entretiens, si on prend celui de l'OFPRA, qui sont pire qu'un entretien, un interrogatoire de police, parce que ça peut durer entre 1 et 8 heures. Je connais une personne, ça a duré 8 heures. 8 heures où on va vraiment, ils vont questionner dans tous les sens, essayer de piéger aussi la personne pour voir si elle dit la vérité, puisque les officiers OFPRA doivent se fier à ce qu'on appelle l'intime conviction. Donc même s'il y a des preuves matérielles qui peuvent être apportées, leur intime conviction. Donc ils vont essayer de percevoir si la personne raconte vraiment une histoire qui lui est arrivée. Il faut que la personne soit capable, donc c'est là où j'essaye de l'entraîner à ça, déjà de reconstituer très précisément la chronologie, de donner beaucoup de détails, de parler par elle-même, c'est-à-dire de ne pas juste répondre aux questions, mais on répond à la question. Et on enchaîne et on dit tout ce qu'on peut dire sur ce moment qui est questionné. Donc il faut être vraiment droit dans ses bottes, très précis, s'être remémoré tout ça. Donc se remémorer des choses douloureuses. Voilà, on connaît des femmes qui ont subi des viols avec vraiment énormément de violence. On a mis beaucoup de temps à les faire raconter. Et qui malheureusement arrivaient en face de la personne, elles ont été incapables de dire quelque chose. Voilà. Et elles ont été rejetées.
Je n'ai pas encore cuisiné les cuisses de grenouille. Hein. Because we also eat.
On
n'a
pas fait les escargots non plus.
Ah oui, escargots. We also eat the legs of frogs. In France, you never been eating this.
No. Yes? Legs of frog?
Yes, it's a specialty of French cooking. Very good.
No, this is Chinese cooking.
No, it's a French specialty.
Abdoul est pakistanais, il est lui aussi hébergé chez Céline. Et quand il raconte son parcours, il garde son sourire comme pour se protéger. Il a fui les talibans qui le menaçaient de mort après avoir tué 3 membres de sa famille.
Sur le trajet, quand nous arrivions dans certains pays, la police et les gens nous tiraient dessus ou nous frappaient quand ils nous voyaient. Peu à peu, ça m'a brisé le cœur. Puis quand je suis arrivé à Paris, j'étais porte de la chapelle et c'était vraiment difficile car je ne connaissais pas la langue. Mais des gens sont venus nous donner à manger et nous aider. Parfois, j'ai peur, car j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée une première fois. Là, j'attends depuis des mois la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Je voudrais qu'ils me donnent une protection, j'ai si peur, car si je retourne dans mon pays, je risque de mourir. Le trajet est très dur, mais attendre est aussi très très dur. Certains attendent même des années. Psychologiquement, c'est difficile. Et si on est rejeté, on perd tout.
Il vous arrive de perdre espoir ?
Parfois, j'ai de l'espoir, mais quand je parle à des gens et que je vois qu'ils n'arrivent pas à obtenir l'asile, alors mon espoir se brise. C'est difficile d'espérer. Quand je suis seul, tout me revient en tête. J'ai quand même passé 3 ans sur le trajet du Pakistan jusqu'à la France. J'ai dépensé 11 000 euros et parfois c'est vraiment, vraiment dur.
Yes, and sometimes my hope is break because when I see this law and the situation and yes, so hard to be hope. Yes.
Pour Médecins du Monde et le centre Primo Levi, l'offre de soins en santé mentale est très limitée, voire inexistante pour les migrants selon les régions françaises. D'autant que les traumatismes peuvent ressurgir des années après, selon Cybèle Agrali, directrice du centre de soins Primo Levi à Paris, qui suit plus de 400 personnes chaque année.
Je me souviens d'une jeune femme que j'avais reçue en entretien d'accueil, si vous voulez, qui avait franchi la porte, mais qui était quasiment... qui a déboulé dans la salle d'attente en disant « Je veux voir quelqu'un ». Je l'avais reçue, donc elle n'avait pas de rendez-vous. En fait, c'est une personne qui avait eu l'information 3 ans auparavant. Elle m'a expliqué comment, 3 ans auparavant, avec l'adresse en main, elle avait fait le pâté de maison. Elle avait marché tout autour, mais elle n'avait pas pu monter. Du coup, je pense qu'elle a dû attendre un moment où les choses étaient devenues d'une urgence extrême, où elle avait très peur de faire mal à sa petite fille. Elle avait accouché entre-temps et elle se sentait vraiment, vraiment pas bien. Et elle s'est rappelée, elle savait, quelque part dans un coin de sa tête, elle connaissait, elle savait qu'elle aura besoin de ce lieu. Et elle a franchi le pas, elle a monté les escaliers et puis elle est venue comme une furie.
Quelle était son histoire à cette dame ?
C'était une femme qui avait été enfant soldat. Et c'est avec ça qu'il faut vivre après. Et en effet, elle avait commis des choses qui ne lui permettaient pas de dormir tranquillement. Donc elle avait vécu la guerre dans son pays, en Afrique, et elle ne supportait pas tout ce qu'elle avait été amenée à faire dans cette guerre où les enfants sont des instruments. Et en plus, elle avait une histoire familiale très, très douloureuse, puisque sa mère s'était suicidée très jeune. Donc elle avait toutes ces questions en tête et elle avait très peur de faire à son tour mal à son enfant, ou en tout cas confrontée à une petite fille qui venait de naître. Tout a rejailli des années après les événements, alors qu'elle était installée, elle était en couple avec un Français, les choses se passaient bien pour elle, si on peut dire. À partir du moment où elle est devenue à son tour mère, donc elle n'était pas demandeuse d'asile à l'époque. Vous voyez, on peut recevoir des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas pour demander l'asile, qui sont tout à fait en amont de leur arrivée ici, de leur parcours d'exil. Et puis on peut recevoir des personnes, parfois des années et des années après les événements.
Il y a un vrai déni de la souffrance psychique ici en France.
Non seulement il y a un déni, mais les conditions dans lesquelles ils sont plongés prolongent, perpétuent les effets du trauma. Et d'ailleurs, alors que des personnes, très souvent, quand ils arrivent, ils serrent les dents. Je veux dire, c'est la demande de soins est rarement la première demande. Ils ont des choses à faire, ils ont des repères à prendre, ils ont des voilà, ils se débrouillent. Ils sont en mode débrouille très souvent. Mais là, ils sont en mode survie, ce qui est plus pire, comme diraient mes enfants. C'est sûr que non seulement il y a déni de ce qui a été vécu, puisque très souvent on ne croit pas à ce qu'ils ont vécu. On s'imagine qu'ils en rajoutent, alors que je peux vous assurer que très souvent, les exilés ne racontent pas le quart du tiers de ce qu'ils ont vécu. Mais ces conditions de vie actuelles perpétuent ce sentiment d'indésirabilité et surtout ce sentiment d'insécurité qui est permanente. Quand il y a une suspicion sur tout ce que vous dites, on essaye de débusquer les contradictions dans vos propos pour dire « Ah ben voyez bien, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ah voyez bien, il ne s'en souvient pas de telle date. » Bah, voyez bien, j'ai envie de dire, il est traumatisé. Pour nous, ce sont des indicateurs de trauma, hein, la réalité du trauma et ses effets. C'est ça, les problèmes de mémoire, les problèmes de concentration, les problèmes de... Où on a des patients qui sont à l'ouest, je veux dire, ils ratent leur station de métro multiples fois, ils arrivent en retard, ils arrivent avec 2 jours de retard parfois. Je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que ça, ce sont des indications du trauma dans des lieux où ils doivent défendre un récit, une histoire du pourquoi ils sont ici. C'est sûr que c'est pas décrypté en ces termes-là. C'est décrypté avec suspicion et ça, c'est une grande claque pour nos patients.
Ngongango yango yo yango yo. Ngongango yango yo yango yo.
Inlassablement, les associations réclament un accès aux soins psychologiques renforcés pour les migrants, avec plus de moyens pour les traducteurs sans qui le travail est impossible, mais aussi une meilleure prise en compte des troubles psychiques et davantage de formation pour les professionnels de santé. La souffrance psychique oubliée des migrants, reportage de Lise Verbeck, réalisé par Nicolas Benita.
Ce samedi sur